Dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. C'est une nouvelle incroyable, une nouvelle qu'il n'est pas possible de croire si le Saint-Esprit n'illumine pas, ne renouvelle pas notre intelligence. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une autre nouvelle incroyable. Jésus revient. Jésus revient. À l'indicatif, c'est la vérité à laquelle nous croyons. À l'impératif, c'est le désir de notre cœur qui s'exprime. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous entendez ces deux mots, Jésus revient. Mais dans la tête de beaucoup de Français, même si ça commence à dater un petit peu, il y a cette chanson moqueuse du film « La vie est un long fleuve tranquille ». Jésus revient parmi les tiens. Jésus revient. Encore une vérité qu'il n'est pas raisonnable de croire. Et pourtant, nous y croyons. Nous y croyons parce que la Bible, parole de Dieu, l'annonce, et parce que le Saint-Esprit a convaincu nos cœurs, nos intelligences. Jésus revient. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Et cette espérance, elle est fondamentale. À tel point que le théologien Jürgen Moltmann plaidait pour que les chrétiens soient appelés les espérants plutôt que les croyants. Toute notre vie, tous nos choix ici-bas se font d'une part à la lumière de la croix, la première venue de Jésus, et d'autre part à la lumière de son retour, sa seconde venue. Tous nos choix se font à cette double lumière. Jésus revient. Tous les chrétiens sont d'accord pour l'affirmer. Mais quand on tente de préciser un petit peu les choses, ça se complique rapidement. Jésus va-t-il revenir une fois ou deux fois? Quels sont les signes qui précèdent, qui accompagnent sa venue? L'Église sera-t-elle enlevée? Quid d'Israël, du millénium? Toutes ces questions divisent les chrétiens, parce que l'interprétation des données bibliques n'est pas simple. Et j'aimerais donc inviter chacun d'entre nous à faire preuve d'humilité. Et j'aimerais nous laisser comme avertissement ce qui s'est passé lors de la première venue de Jésus. L'attente messianique de tous les courants juifs a été prise en défaut. Soyons donc humbles et unis sur l'essentiel, Jésus revient. Souvenons-nous également que l'invitation biblique concernant le retour de Jésus n'est pas tant de tout comprendre que de le désirer ardemment. Et le vrai défi, il est là. Je n'ai probablement pas tout bien compris du retour de Jésus, mais je suis sûr d'une chose, j'ai envie qu'il revienne. Est-ce que nous avons vraiment envie que Jésus revienne? Est-ce que nous vivons dans l'attente de ce retour? Comment est-ce que la perspective de son retour influence nos choix de vie, notre quotidien? J'espère que cette série de prédications nous permettra de répondre à toutes ces questions. Nous allons commencer en douceur aujourd'hui, on va simplement poser quelques jalons. Le titre de cette prédication, c'est tout simplement « Le retour de Jésus ». Et dans un premier temps, nous allons préciser le vocabulaire biblique qui concerne le retour de Jésus. Dans un second temps, nous considérerons rapidement le nombre de retours auxquels nous devons nous attendre. Et dans un troisième temps, nous relèverons trois caractéristiques principales du retour de Jésus. Premièrement donc, le vocabulaire du retour de Jésus. Quels sont les mots et les expressions utilisés par les auteurs bibliques pour parler du retour de Jésus? Il y en a essentiellement cinq. On va commencer avec les mots que j'ai utilisés jusqu'ici. Retour, venue. D'après vous, combien de fois l'expression « retour de Jésus-Christ » est-elle utilisée dans la Bible ? À la louche. En fait, c'est simple. Zéro. Cependant, il y a deux textes qui emploient des termes qui s'en approchent de très près. Jésus, tout d'abord, dit ceci à ses disciples. « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » L'auteur de la lettre aux Hébreux, ensuite, écrit ceci. « Le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Retour, venu. Mais le terme le plus fréquent dans le Nouveau Testament, pour désigner cette seconde venue de Jésus, c'est le terme grec « parousia », parfois tout simplement transcrit en français par « parousie ». Quel est le sens de ce mot ? Son premier sens, c'est celui de présence. La parousia de Jésus-Christ, c'est l'événement qui le fera présent. C'est vrai qu'il est déjà présent par son esprit. Et cette présence spirituelle nous est vitale. Mais c'est vrai aussi qu'il est absent de corps. Et cette absence corporelle nous pèse. Et le sens le plus courant du mot parousia, c'est celui d'arrivée. C'est ce mot qui a été utilisé pour l'arrivée des grands personnages, des rois en particulier. La parousie, l'arrivée d'un roi en visite, mettait toute une ville en émoi. Tout le monde venait à sa rencontre. Et ce mouvement de la foule qui vient accueillir son roi, nous devons le garder en tête. C'est le mouvement de l'Église enlevée dans les airs à la rencontre du roi des rois qui descend du ciel. Retour, venu, parousie. Un troisième mot-clé, c'est le mot jour. On le trouve dans toute une gamme d'expressions. Jour du Seigneur, jour de Jésus-Christ, jour du Christ, jour du Seigneur Jésus, ou tout simplement le jour. La thématique du jour, elle est centrale chez les prophètes de l'Ancien Testament. Le jour du Seigneur marquera notre triomphe, pensaient les Israélites. Mais les prophètes leur ont ôté leurs illusions. Ce jour sera pour vous, à cause de votre révolte, ténèbres et non lumière, a prévenu le prophète Amos. Et le Nouveau Testament nous précise que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, sera le jour du Seigneur Jésus. Un autre mot grec, qui est souvent simplement transcrit en français, le mot épiphania, épiphanie. Il signifie apparition brillante. Et l'apôtre Paul, surtout à la fin de sa vie, aimait parler ainsi du retour de Jésus, un retour glorieux, resplendissant. Voici ce qu'il dit à Timothée, telle une couronne. La justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue, son épiphanie, son apparition resplendissante. Le dernier mot, utilisé par les auteurs bibliques pour parler du retour de Jésus, c'est le mot dévoilement, apocalypsis en grec. Ce que les croyants attendent, ce que nous attendons, c'est la levée du voile qui masque encore la gloire de Jésus. Et l'apôtre Pierre utilise cette expression à plusieurs reprises, notamment pour encourager les chrétiens à tenir ferme, à persévérer malgré les épreuves et les difficultés. Votre foi qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse que l'or passé par le feu du creuset. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lorsque le voile sera levé sur sa gloire. Notre foi aura été valorisée par par les difficultés que nous aurons traversées. La question qui se pose à nous maintenant est la suivante. Toutes ces expressions, tous ces mots décrivent-ils un seul et même événement, un seul et même retour, ou alors faut-il les distinguer et envisager plusieurs retours de Jésus? La réponse, vous le savez, ne fait pas l'unanimité chez les chrétiens, ni même chez les chrétiens évangéliques. Certains chrétiens évangéliques ont avancé l'idée de deux retours de Jésus-Christ, ou de deux phases à son retour, deux phases séparées de 7 années ou de 3 années et demie, ou alors d'une durée indéterminée. Dans cette perspective, Jésus reviendrait tout d'abord pour les siens, et ensuite avec les siens. Le mot parousie serait alors employé à propos de la première venue, de la première phase de sa venue, secrète, invisible pour le monde, et l'expression « jour du Seigneur » concernerait sa seconde venue, la seconde phase de sa venue. Et l'idée clé qui se trouve à l'arrière-plan de cette lecture, c'est la fameuse grande tribulation, période très difficile, marquée par le règne de l'Antéchrist. Jésus-Christ reviendrait une première fois avant celle-ci afin d'enlever l'Église et de lui épargner ce temps de souffrance. Il reviendrait ensuite une seconde fois à la fin de celle-ci. Je reviendrai plus en détail dans 15 jours là-dessus. Je vais m'arrêter simplement sur un point pour aujourd'hui. Parce que les données bibliques, les termes que je vous ai présentés juste avant, ne permettent pas de distinguer deux retours ou deux phases. Je vais le montrer très simplement. Les termes, les différentes expressions qu'on a vues ensemble sont interchangeables sous la plume des auteurs bibliques. Prenons simplement deux exemples. Dans la seconde lettre envoyée par l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. Lisons ensemble les deux premiers versets du chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Au sujet de la venue, donc de la parousie, de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Comment est-ce que dans cette phrase, on peut dissocier la parousie du jour du Seigneur, alors que c'est précisément pour avertir les croyants au sujet de la parousie que l'apôtre Paul leur dit « Le jour du Seigneur n'est pas encore là ». C'est une question simplement de logique dans la démonstration de l'apôtre Paul. Évidemment, la parousie et le jour du Seigneur font référence à un seul et même événement. Quelques versets plus loin, au verset 8, l'apôtre Paul combine les mots « épiphanie » et « parousie ». Le Seigneur Jésus fera périr l'Antichrist par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Et littéralement, au moment même de l'épiphanie de sa parousie. La destruction de l'Antichrist interviendra lors de la parousie resplendissante de Jésus. Une parousie qui n'a donc rien de secret ou d'invisible. On pourrait ainsi multiplier les exemples, ce que je ne vais pas faire, mais la preuve est faite. Les termes utilisés par les auteurs bibliques sont interchangeables. Ils évoquent sans ambiguïté un seul et même événement, un seul et même retour de Jésus, sa parousie, sa venue, son jour, son épiphanie, sa révélation. Un seul et même retour. Quels sont les traits caractéristiques de cet événement, de ce retour de Jésus? C'est ce que je vous propose de voir maintenant rapidement. Je vous propose trois caractéristiques principales du retour de Jésus. Des caractéristiques qui, à ma connaissance, ne font pas, cette fois-ci, débat chez les chrétiens évangéliques. Premièrement, le retour de Jésus sera personnel. Jésus vient en personne. Et comme l'a si bien dit le pasteur Pierre Maury, nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Jésus-Christ est notre espérance. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle à Timothée. Nous attendons donc Jésus lui-même, en personne, en chair et en os, et non d'une manière symbolique, comme le pensent certains, par exemple l'esprit ou la pensée de Jésus qui imprégnerait toute l'humanité. Et cette concentration de l'espérance en une personne est unique. Aucune autre religion ne focalise ainsi son espérance. Et comme le souligne le théologien français Henri Blocher, même dans l'islam, ce qui reste de concrétisation de l'espérance, c'est encore la venue de Jésus, Issa. Sourate 43, verset 61, la venue d'Issa est l'indice, le signe de l'heure finale. Deuxièmement, le retour de Jésus sera visible. Il est écrit « Tout œil le verra » ou « Tout le monde le verra » selon les traductions. Comment est-ce que c'est possible alors que la terre est ronde? Mystère. Mais une chose est sûre, ce retour sera visible, glorieux, resplendissant. On ne pourra pas manquer le retour de Jésus. Troisièmement, le retour de Jésus sera soudain. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Même si, comme nous le verrons la semaine prochaine avec Philippe, des signes précèdent et accompagnent le retour de Jésus, celui-ci sera néanmoins surprenant à bien des égards. Et l'invitation de l'apôtre Pierre dans cette attente est la suivante. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Ce n'est pas une invitation à nous culpabiliser parce que nous chutons ou parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. C'est une invitation à mener une vie juste en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous offre le pardon, la réconciliation, la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Sans culpabiliser, dans la paix qu'il donne. Quelques mots pour conclure. Jésus revient. On peut se moquer de ça. Et je ne veux pas vous casser le moral, mais c'est ce que font la plupart de nos contemporains. Mais on peut aussi y croire. On peut y croire par la foi, parce que le Saint-Esprit a ouvert notre intelligence. Et si nous y croyons, si nous croyons que Jésus revient, alors cette perspective doit éclairer notre quotidien. Cette perspective doit influencer nos choix, nos décisions, notre manière de vivre. Et en particulier, comme nous l'avons lu ensemble ce matin, cette perspective du retour de Jésus nous encourage à tenir ferme dans les difficultés, afin que notre foi soit purifiée, valoriser. Et cette perspective nous encourage également à mener une vie pure, une vie droite, une vie juste, en nous appuyant sur la grâce de Dieu, cette grâce qui donne la paix. J'invite à prendre quelques instants de silence, quelques instants pour méditer ce que vous avez entendu. J'invite à vous mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te demande à travers cet enseignement? Que chacun se place face à Dieu et se mette à son écoute.